Bonjour Nathalie Parent.
Bonjour Marianne.
C'est un plaisir de vous retrouver, Nathalie.
Moi, pareillement.
Nathalie, une chose qui m'a marquée dans votre livre, c'est ce constat que d'exprimer des pensées ou des sentiments négatifs envers la maternité, des déceptions envers notre accouchement, ou même des sentiments négatifs, là, que ce soit de la colère ou de la déception envers notre bébé, c'est quelque chose qui est encore extrêmement tabou dans notre société. Et ça expliquerait peut-être pourquoi certaines femmes vont tarder avant d'aller chercher de l'aide ou d'exprimer leur souffrance suite à l'accouchement.
Oui, effectivement, les femmes vivent souvent un sentiment de honte à l'égard de ces sentiments-là qu'on qualifierait plutôt de négatifs, alors que ce sont des sentiments, hein, des sentiments, on peut en avoir de toutes les sortes, mais ceux qui sont, disons, plus qui se relie finalement au fait de perdre sa place, d'être triste, finalement de pas avoir le goût d'allaiter, donc tous les sentiments qui sont pas dans le parfait bonheur de la maternité, ben les femmes ont plutôt honte ou sont gênées de parler de ça, alors que au contraire, à peu près toutes les femmes peuvent avoir un moment ou l'autre dans leur vie de postpartum ressenti des sentiments plutôt tristes ou de déprime ou de mal-être.
Dans votre livre, vous commencez par deux figures de cas bien distinctes. Donc, cette femme, Louise, qui vit un accouchement plutôt régulier, une maternité qui est plutôt normale, un accouchement qui est difficile, mais bon, qui se déroule, somme toute, assez bien. Puis, après l'accouchement, elle est très, très heureuse. Et l'autre figure de cas, c'est Francesca, qui, elle, va vivre aussi une maternité, somme toute, OK. Un accouchement, encore une fois, difficile, mais bon, tout se passe bien, un bébé en santé, mais ça va aller jusqu'au suicide. C'est une façon d'exprimer que il y a plein de spectres, en fait, dans cette dépression-là, suite à l'accouchement.
Effectivement, il y a ces deux extrêmes qui sont présentés en début de livre pour montrer à quel point il y a quand même toute une variation entre ces deux extrêmes-là. Et c'est pour ça aussi qu'après, il y a d'autres situations, d'autres femmes qui témoignent en fait de leur réalité qui est fort différente pour chacune, mais qui a été aussi très souffrante. Alors, puis on montre aussi un peu comment chacune s'en est sortie, parce que chacune a ses ressources et ses façons à elle pour s'en sortir.
Oui. Et il y a plein de raisons. Il y a un cas qui m'a bien marqué, je dirais, Nathalie, c'est cette femme qui, suite à l'accouchement, perdait ses cheveux énormément et c'est devenu presque une obsession pour elle et ça l'a fait sombrer, ça, et plein d'autres raisons, dans une dépression assez sévère. Quelles sont les raisons qui nous mènent à la dépression postpartum?
C'est sûr qu'il y en a plusieurs, mais il y a tout le contexte environnemental, c'est-à-dire que, bon, est-ce qu'il y a du support? Il y a aussi les vulnérabilités de chacune, je devrais dire. Donc, la personne qui a déjà fait des dépressions antérieurement ou encore qui a vécu beaucoup d'anxiété, on sait que c'est une prédisposition à rendre plus fragile ou sujette à vivre une dépression ou du moins une souffrance plus marquée. Il y a aussi tout ce qui touche un accouchement difficile ou un problème avec bébé, une grossesse difficile, le manque de sommeil, tout ce qui touche également la personnalité, est-ce que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'adapter de façon générale? Si oui, alors là, on sait qu'avec un bébé, il faut constamment s'ajuster. Mais il y a aussi l'image idéale que chaque mère, chaque femme se fait enceinte du bébé, de la maternité. Et cette image-là, on y projette plein de désirs, plein de choses qu'on veut, qui est comme une image idéale. Et quand on arrive avec la réalité, ben des fois, si la réalité est très loin de l'image que je m'étais faite, ben c'est possible qu'on est plus à risque de tomber là, dans une déprime.
Mais Nathalie, lors de la grossesse, est-ce qu'il faudrait je ne sais pas, diminuer nos attentes? Parce que c'est difficile de dire à une mère qui attend un bébé, bon là, attends-toi pas à grand-chose.
Bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein?
Ouais.
C'est pour ça que moi, je dis souvent que l'idéal, c'est d'en parler.
Mm-hmm.
Parler de à quoi je m'attends, comment je vois ça, comment je le vis actuellement aussi. Donc, parler de tout ça, puis souvent enceinte, puis même après, il y a des craintes. Hein? Les femmes vivent des fois, en fait, plus que des fois, très souvent, elles vivent des appréhensions, des inquiétudes, que ce soit face à elles, face à leurs compétences de mère, mais aussi face au bébé, comment il va être, est-ce qu'il va bien boire, est-ce qu'il va se développer normalement, est-ce qu'il va avoir une anomalie, bon, et puis ça, on sait aussi que tous les tests, tous les examens qui sont faits durant la grossesse viennent ajouter un stress supplémentaire. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème, mais quand on suspecte quelque chose, même si ça s'avère être négatif, c'est-à-dire que tout se passe bien finalement, il n'y a pas d'anomalie, mais durant la grossesse, quand on sème un doute sur mm-hmm. le bon développement du fœtus puis du bébé à naître, bien ça apporte vraiment une anxiété, un stress supplémentaire chez la mère qui peut amener là, des états dépressifs ou de déprime, disons mm-hmm. ça, après.
On entend souvent parler du baby blues.
Mm-hmm.
Comment on peut faire la distinction entre le baby blues et la dépression postpartum?
En fait, le baby blues, ça touche davantage de femmes. C'est autour de 60 % des femmes qui vont vivre des pleurs, une émotivité, un sentiment d'incompétence. Mais ça va se vivre en moyenne ça va être de courte durée, environ 2 jours
ah oui,
en okay. moyenne, oui. Et ça va être dans les 2 premières semaines post-accouchement. Alors que la dépression, elle, touche entre 10 et 15 % des femmes. Ça, c'est les statistiques, parce qu'il peut en avoir plus, mais statistiquement parlant, c'est le nombre qu'on retrouve là, mm-hmm. dans la littérature. Et c'est sur une période, un sentiment de déprime qui va durer plus de 2 semaines. Et donc ça peut apparaître après 10 jours d'accouchement, jusqu'à 2 ans après l'accouchement.
Ah oui! Donc, il faut rester assez vigilant aux symptômes, que ce soit pour nous ou encore, là, je m'adresse également aux entourages là,
oui.
de ces femmes-là.
Oui, puis j'ai le goût de dire que c'est davantage à l'entourage d'être alerte à ça, parce que des fois, la maman peut dire des choses, peut amener des commentaires du genre... Oh, je l'ai pas. Si j'étais capable, il pleurerait pas tant que ça. Bon, amener des commentaires comme ça, qui fait que la maman, elle est collée dessus, alors que l'environnement peut voir que, oups, il se passe peut-être quelque chose, ou encore la dépression, ça peut être la déprime, ça peut être le sentiment d'incompétence, mais ça peut être aussi beaucoup pour certaines femmes de l'irritabilité. Hein, dans le livre, il y a une personne qui témoigne de comment elle était tout le temps enragée. Là, c'était la colère qui était là tout le temps. Puis c'est son conjoint à un moment donné qui dit, ben là, ça marche pas. Il faudrait mm-hmm. peut-être que tu ailles consulter. C'est peut-être t'as de l'antithyroïde, je sais pas. C'est peut-être quelque chose, mais là ça va pas, ça dure. Puis ça a pas de sens.
Ouais.
Hein? Donc, c'est ça. Ça peut être dans la déprime, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre, hein? Une émotion intense qui perdure dans le temps.
Mais en même temps, j'ai l'impression, Nathalie, que ces femmes-là qui vont s'exprimer en disant « Ah, je suis fatiguée » ou « Ah, je l'ai pas, mon enfant pleure tout le temps, je suis pas habile avec lui », souvent l'entourage va dire « Bah, t'es fatiguée, repose-toi, bah, c'est normal, tu vas t'en sortir, tu vas t'en remettre ». Donc, c'est difficile d'exprimer clairement que peut-être on a des inquiétudes envers notre santé.
Mais vous avez raison, hein, parce que c'est vrai que dans notre société, on n'aime pas ça, entendre ça, hein, de quelqu'un qui déprime, ou on va trouver rapidement une solution, ou on va dire que c'est la fatigue, le stress. Oui, mais peut-être juste d'être à l'écoute de ça, juste de dire, oui, tu te sens incompétente, ah bon, ça se peut. Ça se peut que tu te sentes comme ça, ce qui ne veut pas dire que tu es comme ça, mais ça se peut. Hein? Mais juste recevoir ça, moi, je peux vous dire que le nombre d'hommes et de femmes que j'entends dire que finalement, quand le conjoint arrive de sa journée de travail, juste d'avoir à écouter la maman qui déborde d'émotions, déjà, ça vient faire un baume sur l'état de la mère et de la mère et du bébé.
Ouais.
Souvent, juste d'avoir à recevoir ça, d'être dans l'écoute, de comprendre, ouais, ça a été difficile. Aurais-tu le goût d'avoir une petite demi-heure pour toi, ou prends une heure, garde, je vais prendre la relève, ou est-ce que tu voudrais qu'on appelle quelqu'un, une gardienne, ta mère, quelqu'un qui pourrait venir prendre le relais un petit peu, tu sais, ou faire un travail à la maison qui pourrait t'aider à alléger la tâche.
Ça, c'est le rôle du conjoint, à quelque part, le rôle du papa, Nathalie.
Oh, oui. Et puis souvent, ils sentent, eux, impuissants ou démunis, alors qu'ils ont tout un rôle à jouer juste dans le fait d'être là, d'être présent, d'assurer une présence à la maman et au bébé. Ça, c'est vraiment gagnant.
Est-ce que les spécialistes de la santé, je parle ici, ça pourrait être le médecin de famille ou autre, là, sont habilités à rencontrer ces femmes-là, à détecter assez rapidement les signaux et agir en conséquence?
Bien, c'est sûr que, un peu dans le sens de ce qu'on disait tantôt, la maman qui va dire « Ah, je me sens pas bonne, bon », déjà, c'est un plus, hein, elle est en train de au moins ouvrir la porte. Mais combien il y en a qui oseront pas dire ça, qui oseront pas parler de ça devant le médecin? Alors, le médecin, il peut pas deviner. Donc, il peut avoir des indices en voyant la posture, le fait que la maman peut négliger son apparence, mais aussi son hygiène, le fait qu'elle ait un regard fuyant, elle regarde pas du tout dans les yeux, ou est absente, est pas présente à son bébé, elle regarde ailleurs. Bon, ça c'est des détails dont il faut être à l'affût, mais ça c'est quand même pas donné à tout le monde. Là, si on a un bon lien de confiance, qu'on connaît bien la cliente, la patiente, ben c'est beaucoup plus facile à détecter. Mais si c'est dans le cadre d'un sans rendez-vous, c'est pas évident là.
Ouais. Maintenant, Nathalie, une femme qui aurait vécu un postpartum lors d'une première grossesse, oui, est-ce qu'elle serait plus à risque pour la deuxième?
Bien, on dit que oui, statistiquement parlant. Sauf que moi, j'ai le goût de dire qu'au niveau clinique, si la maman a vécu un postpartum difficile et qu'elle a fait du travail sur ce postpartum-là, dans le sens de comprendre qu'est-ce qui s'est joué, dans le sens aussi de faire la paix avec elle-même dans cette situation-là, ben ça veut pas dire, mais vraiment pas, qu'elle va en revivre un au deuxième. D'ailleurs, il y en a une qui témoigne dans le livre, qui dit justement qu'à sa première grossesse, elle a vécu une dépression, mais ça ne lui a pas empêché d'avoir deux autres enfants et ça s'est bien passé. Elle n'a pas vécu de dépression postpartum. Il faut dire qu'elle avait consulté à la première aussi, puis qu'elle a eu un bon accompagnement par son médecin de famille pour la suite des deux autres grossesses, qui lui avait dit « Écoute, je vais te suivre, on va faire ça ensemble. » Tu ne seras pas toute seule. Il y avait comme tout un contexte là, qui était mis en place pour aider cette maman-là.
Donc, il est possible de prévenir si on se sait ou on se sent à risque parce qu'on a déjà vécu une dépression dans le passé ou peut-être que notre mère a vécu ça. Mm-hmm. On peut déjà prévoir le coup, en parler à notre entourage, peut-être déjà consulter un psychologue, en parler à notre conjoint. Ce sont des façons de prévenir, Nathalie.
Tout à fait, hein. Si on sent qu'on est moindrement fragile, moindrement anxieux, même durant la grossesse, on peut aller commencer une thérapie. Hein? Le site de l'Ordre des psychologues offre la possibilité d'avoir un psychologue, un psychothérapeute à consulter. Donc, on peut facilement aller parler de ça, puis il y a des médecins qui recommandaient, dans les médecins qu'on a consultés, qui recommandaient d'abord et avant tout la psychothérapie et seulement la médication en support quand c'était nécessaire. Mais le fait d'aller parler, faire oser faire le tri de ce qui est anxiogène ou de ce qui fait peur, de ce qui rend inconfortable, déjà, ça peut être préventif.
Ouais. En même temps, j'entends beaucoup de jeunes mères autour de moi me dire il y a tellement de compétition. Les mères s'observent entre elles, se jugent, tentent de se donner des conseils, mais parfois, ça peut être un petit peu mesquin et ça peut peut-être alourdir un petit peu. On se sent seul, on se sent démuni, on a encore moins envie d'exprimer notre détresse s'il y a. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes mères-là, ces jeunes femmes-là qui se sentent un petit peu oppressées par les autres mères?
Je vais vous dire que c'est vrai que c'est une réalité dans le sens qu'il y en a beaucoup qui ressentent ça, qui le vivent de cette façon-là. Là aussi, il y a un travail à faire sur le sentiment de compétence, hein? Se sentir compétente comme mère sans avoir peur du jugement des autres, c'est tout un travail qui est à faire. Qui peut se faire en soins en psychothérapie, mais aussi dans les cours prénataux et postnatal, il y a toutes sortes de cours postnatales qui peuvent être aidants aussi à ce niveau-là, quand il y a un partage, quand on sait qu'on vit la même chose avec d'autres personnes, on se sent vraiment moins seul, ça c'est certain.
Ouais, j'ai l'impression que les mères vivent souvent le même type de réalité, mais que parfois elles restent un petit peu en silo avec avec leur quotidien et qu'elles gagneraient beaucoup à communiquer puis à se réunir entre elles. Peut-être que ce livre-là va créer ces discussions du postpartum à la dépression, renaître après la naissance. Vous l'avez co-écrit, oui, Nathalie Parent avec Joanne Paquet et puis c'est édité aux éditions Québec Livre. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler, Nathalie Parent.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.